up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Vous ne me croyez pas? Tiens la preuve. On va fêter les 25 ans des Pokémon et ensuite gastronomie. Trois recettes paysannes avec Laurent Mariotte, le Pokémon paysan. Vous retrouverez évidemment notre carré magique, Eva Rock, Bertrand Chameroy, Antoine Janton et Louise Bernard dans l'ordre inverse d'apparition. L'info média du jour qui se penche sur l'élaboration du discours complotiste en France. Quel rapport, par exemple, entre les excès des Gilets jaunes et ceux du professeur Raoult? Réponse avec le documentaire Fake News sur ordonnance, signé Félix Suffer-Lopez. Il sera avec nous ainsi que Karim Rissouli, présentateur de la Fabrique du mensonge sur France 5, qui héberge, si j'ose dire, ce documentaire. Et puis nos invités, la chanteuse Amel Bent et la productrice Anne Marcassus, car la plus grosse audience télé hors foot, c'est ce soir sur TF1. Ce sont les Enfoirés, grand concert au bénéfice des Restos du Cœur. Ces généreux restos créés il y a plus de 35 ans par Coluche. 35 ans, c'est justement l'âge d'Amel Bent. Enfin, celle que Françoise Sagan appelait la Castafiore, Michèle Halberstadt, productrice de cinéma, pour son nouvel ouvrage, Né quelque part. Il y imprime son portrait musical signé Angèle Châtelier. Quel programme, quel vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, sérieusement, au sommaire de votre journal des médias.
Bien, mais peut mieux faire. La place des femmes à l'antenne est encore un long combat. C8 veut reprendre une ancienne émission de France 5 et les Simpsons prolongés jusqu'en 2023 aux États-Unis. Deux nouvelles saisons donc.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir?
TF1, section de recherche, deux épisodes de la série. Très en forme, 4 900 000 téléspectateurs, 24,5% de part d'audience. Ensuite, c'est un peu au coude à coude. Hein. C'est France 3 avec le film Interstellar qui durait quand même 2h45, donc qui perd un peu des gens en fin de soirée, mais quand même 1 700 000 téléspectateurs, 9,6% de part d'audience. Puis c'est France 2, envoyé spécial, pas en grande forme, 1 450 000 téléspectateurs, 7% de part d'audience. Ensuite, c'est intéressant de regarder. M6 confirme son flop avec This Is Us saison 4, puisque M6 est en dessous du million, battu par Arte et W9. C'est donc Arte qui est quatrième et qui marche toujours aussi bien avec En Thérapie. Les courbes sont stables, c'est-à-dire que les gens restent tout le long des épisodes. 1 380 000 téléspectateurs, 6,4% de part d'audience.
Culture Média.
Place maintenant au journal des médias, Antoine Janton, avec à la une encore beaucoup de travail pour arriver à la parité à l'antenne.
C'est le constat induit par le rapport annuel du CSA, rapport sur la représentation des femmes dans l'audiovisuel. Il a été présenté hier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La part des femmes à l'antenne était de 41% l'an dernier, radio et télévision confondues. Un chiffre stable par rapport à 2019, pas de recul donc, pas de progrès non plus. La route est encore longue. Un autre chiffre en témoigne, celui du temps de parole accordé aux femmes à la télévision, par exemple. Elles ont beau y être un peu plus présentes, 43% du temps d'antenne, elles parlent moins que les hommes, 35% seulement du temps de parole. En cause, de vieux réflexes, selon Carole Bien-Aimée Besse, membre du CSA en charge de ces sujets.
Regardez sur les plateaux. Souvent, même si elles sont présentes, on ne leur donne pas la parole ou elles se font interrompre quand elles prennent la parole. Donc elles vont être interrompues par un homme qui va dire exactement la même chose, qui va reformuler, mais qui va avoir l'impression de dire les choses mieux que la femme, ou elles ne vont pas prendre la parole. Donc elles vont être présentes. Et si on n'est pas face à un animateur ou une animatrice qui donne la parole spontanément, elles ne la prendront pas.
Il y a quand même quelques points positifs. Deux principalement, les expertes sont de plus en plus nombreuses, à Europe 1 particulièrement, même si on a des choses aussi à améliorer. L'année 2020 avait pourtant très mal commencé à cause du premier confinement. Et deuxième point, les femmes sont plus présentes qu'avant aux heures de grande écoute. Un bilan dont se réjouit Carole Bien-Aimée Besse, consciente du travail accompli par les chaînes de télé et les stations de radio.
C'est maintenant des réflexes qu'ils ont. Il y a une pression énorme des auditeurs, des téléspectateurs. Des plateaux qui sont plus paritaires, ça passe plus. Tout de suite, il y a une interpellation directe qui est faite par le téléspectateur. Les femmes consomment énormément les médias, donc ne pas s'y retrouver, c'est quelque chose qui ne passe plus. Et de ce point de vue-là, on a plus de travail à faire de prise de conscience et de mobilisation. On a énormément progressé. Là, on a fait la même chose que l'année dernière, mais parce qu'il y a eu la crise. S'il n'y avait pas eu la crise, je pense qu'on serait sur des scores beaucoup plus importants.
La place des femmes et plus précisément celle des expertes dans les médias, ce sera l'un des sujets de Culture Média lundi prochain. Nous en parlerons avec Lorraine Provost, la directrice de la rédaction du HuffPost.
Et c'était d'ailleurs un des regrets de l'humoriste Maxime Gasteuil qu'on recevait hier. Il ne trouvait pas assez de femmes humoristes pour monter sur scène. Et un regret de la productrice Anne Marcassus qu'on trouvera tout à l'heure, pas assez de femmes pour aller sur la scène des Enfoirés. Tout à fait autre chose, C8 veut relancer une émission arrêtée par une autre chaîne.
La Maison France 5, vous la regardiez peut-être,
évidemment.
Louise et Philippe, émission de décoration supprimée de l'antenne en décembre après 17 années d'existence. Oui. C'est le site du Parisien qui l'annonce. Un pilote va être tourné la semaine prochaine avec le même animateur, Stéphane Thébault. Si ce test plaît aux dirigeants de C8, l'émission pourrait être diffusée en première partie de soirée, selon le Parisien. C8, qui a déjà recyclé ces dernières années plusieurs émissions supprimées par d'autres chaînes, Le Jeu de la Vérité, renommé Vendredi Vérité, Avis de Recherche, devenu On se retrouve chez Sabatier, et plus récemment le jeu Apprendre ou à laisser, trois programmes qui ne sont pas restés longtemps sur l'antenne de C8.
Dans l'actualité des médias également, un projet de nouveau magazine.
Un hebdomadaire d'information au ton punchy et au positionnement centriste. C'est Daniel Kretinsky, le propriétaire de Marianne et de Elle en France, qui veut le lancer. Information révélée par le magazine Le Point. Caroline Fourest a été contactée pour le diriger, mais l'essayiste a décliné. Elle explique sur Twitter vouloir consacrer plus de temps à l'écriture et au cinéma.
Le Focus programme du jour, Antoine, c'est un documentaire diffusé demain sur Public Sénat.
Au nom du patrimoine, c'est son titre. Vous vous souvenez peut-être des images de musées détruits à Raqqa ou à Mossoul, de sites culturels ravagés par des djihadistes comme celui de Palmyre en Syrie. Ces images, ce documentaire, il veut les dépasser et analyser les motivations profondes des terroristes. Thomas Raguet, son réalisateur, au micro de Culture Média.
Trop souvent, on s'est arrêté à des explications un peu rapides, ou alors on a parlé de pillage. Mais en fait, il y a une vraie idéologie derrière. Les destructions ne sont pas aveugles. Les djihadistes ne s'en prennent pas aux biens culturels quels qu'ils soient. Ils vont s'en prendre en particulier à ceux qui sont le fruit d'un travail archéologique, bien souvent occidental, et qu'on trouve dans des musées ou qu'on trouve sur des sites antiques qui ont été reconstitués, retravaillés par des archéologues. En revanche, les sites qui sont dans leur état d'origine, ils ne les touchent pas. C'est-à-dire que les sites qui étaient tels quels à l'époque du prophète, ils ne les détruisent pas.
Ce ne sont pas les premières destructions de biens culturels par idéologie, ça existe depuis des millénaires, mais ce qui a changé ces dernières années, c'est la communication. Les extrémistes ont compris le pouvoir de l'image et des réseaux sociaux, notamment en 2015.
Ce sont des images qui font mal, c'est pour ça qu'elles avaient eu un tel retentissement, c'est pour ça que ces djihadistes les fabriquent et les diffusent. Via les réseaux sociaux, ces actes ont été diffusés à une vitesse fulgurante et ont tout de suite touché leur cible, c'est-à-dire un public bien souvent occidental, très attaché à la préservation de cet héritage, de ce patrimoine, mais aussi destiné à un public, on va dire, de candidats au djihad, comme une publicité finalement, destinée à leur montrer ce qu'on est capable de faire, et comme une incitation à venir rejoindre un petit peu les rangs de l'État islamique en l'occurrence.
Ces images de propagande, on les revoit dans le documentaire, elles sont décryptées, analysées par des spécialistes, documentaires qui montrent aussi la reconstruction et la mobilisation des habitants attachés à leur patrimoine, à Mossoul en Irak notamment, où le musée renaît et sa population avec, au nom du patrimoine, documentaire de Thomas Raguet, c'est diffusé demain soir sur Public Sénat à 21h.
On reconnaît ce générique, vous l'avez dit, les Simpsons sont increvables.
Ils ont été renouvelés jusqu'en 2023. Deux nouvelles saisons pour la série d'animation diffusée sur Fox aux États-Unis, les 33e et 34e, ce qui devrait porter le nombre d'épisodes à 757.
Whoopinaise.
Une longévité record. Bart fêtera donc son 10e anniversaire pour les 33e et 34e fois. C'est ce qu'a dit avec humour le créateur de la série Matt Groening hier après l'annonce de cette prolongation.
Toutes ces infos, évidemment, on peut les retrouver. Vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Genton. Merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Dans un instant, notre info média du jour. Comment naissent les fausses informations et comment les contre-attaquer? C'est à ces questions que tente de répondre la collection documentaire La Fabrique du mensonge sur France 5. On en parle avec son présentateur Karim Rissouli et son producteur Félix Suffert-Lopez. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Comment le discours complotiste a-t-il pu s'installer puis se développer en France? Quels sont les liens, voire les points communs entre les gilets jaunes, le professeur Raoult ou le youtubeur Thierry Casasnovas? Voilà deux des questions auxquelles répond un documentaire éclairant et édifiant, Fake News sur ordonnance, un film d'une heure et demie diffusé après-demain sur France 5 dans le cadre de la collection La Fabrique du Mensonge. Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le présentateur de La Fabrique du Mensonge. Face à vous avec nous, Félix Supfer-Lopez. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le producteur de cette collection documentaire. Alors, Fake News sur ordonnance, c'est le titre de ce doc réalisé par Elsa Guiol, Benjamin Teil et Lucille Berland. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il dit de ce qu'on va voir après-demain sur France 5?
C'est une réflexion autour de la manière dont en fait les fake news autour de la santé sont devenues les fake news principales qu'on peut trouver désormais sur internet. En fait, c'est-à-dire que on a vu arriver, nous avec les équipes de La Fabrique, on travaille sur ces thématiques depuis 2-3 ans, et on a vu, quand on a vu arriver le confinement et la pandémie, on a vu en fait une explosion, mais c'est du simple au double, au triple, au centuple, enfin c'était complètement délirant. En fait, c'était une déferlante de fake news, de défiance, puis peu à peu de théories conspirationnistes, de gens qui ne croyaient plus du tout ce que les médias ou ce que les politiques ou ce que les médecins leur disaient.
Ouais. Et pour quelle raison? Est-ce que ça s'explique? Est-ce que parce que c'est Paul Valéry qui disait ce qui est simple est faux et ce qui est vrai est complexe? Est-ce que les gens ont envie de réponses simples et qui pourraient utiliser dans leur avenir tout proche?
Je pense que oui, et surtout quand il s'agit de la santé. La santé, c'est vous, c'est moi, c'est les 67 millions de Français qui, quand on a un pépin de santé, on veut une réponse immédiate et on veut que la santé, la science nous soigne tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a en plus eu avec la pandémie quelque chose d'assez fort, c'est que les gens ont confondu la science et la recherche. C'est-à-dire que la science, c'est un consensus autour de publications, de choses que des chercheurs ont travaillé. Il y a un consensus et il y a une vérité scientifique. La recherche, ça a à voir avec le doute. Donc quand on cherche un vaccin, on doute, on tâtonne. Et donc, on a voulu, je pense collectivement d'ailleurs, avoir des réponses immédiates. Et c'est dans ces brèches-là que les complotistes ou les théories conspirationnistes s'engouffrent immédiatement.
Ouais, et on voyait les raccourcis dans les films où on voyait un chercheur douter, il disait, voyez, il n'est pas sûr de lui, donc ce qui prouve que la science est fausse. Non, on peut connaître les lois de l'électricité et pas arriver à faire des batteries très légères. J'explique ça de manière très prosaïque pour qu'on comprenne la différence.
Surtout pour connaître les lois, il faut d'abord les chercher, et avant il y a tâtonnement. Et cette pandémie qui est arrivée dans un moment de défiance des élites, je mets des guillemets partout, hein, des élites du système, de ceux qui nous gouvernent, des scientifiques aussi qui ont, on en a parlé beaucoup à Europe 1 et ailleurs, qui ont tâtonné, qui se sont contredits sur les plateaux de télévision ou à la radio, ça n'a fait que renforcer tout ça.
Et puis aussi avec l'ombre tutélaire des Big Pharma, soi-disant ces gros laboratoires pharmaceutiques, enfin ils sont gros, mais qui prétendument ne penseraient qu'à leurs bénéfices. Le doc s'intéresse au succès à la fois d'un film et d'un youtubeur. Le film, c'est le documentaire complotiste Hold Up, sorti en novembre dernier. Le youtubeur, c'est Thierry Casasnovas, défenseur d'une alimentation entièrement crue, lui-même qui est devenu complotiste. Qui est-il, Félix Supfer-Lopez? Qui est Thierry Casasnovas?
Thierry Casasnovas, c'est un personnage qu'on suivait depuis longtemps, qui est assez intéressant parce que c'est un petit gars qui d'un coup s'est mis à poster des vidéos sur son régime, manger cru, etc. etc. Mmh. Et qui peu à peu s'est retrouvé à la tête d'une entreprise digitale.
Ouais, c'est plus qu'un petit gars, ouais. C'est un boulanger de formation, ancien voilà. Toxicomane, marginal, et qui lui-même a été fasciné par un faux médecin américain.
Oui, c'est faux médecin américain et un médécin français qui est Guy-Claude Burger, qui prétendait que le manger cru pourrait tout soigner. Mmh. Et en fait, lui, il s'est un peu engouffré dans cette brèche-là et il s'est mis à faire des vidéos pour prôner le manger cru. Et ce qu'il y a de pernicieux dans le discours de Casasnovas, c'est qu'il dit une partie de choses qui sont vraies. C'est-à-dire, manger des fruits et légumes, c'est plutôt une bonne chose.
Bien sûr. Voilà. On nous recommande même 5 par
5
jour.
Par jour. Voilà. Quand ensuite, il dit la seule chose que la chimiothérapie va t'apporter, c'est du poison dans tes veines. Là, en revanche, il y a un débord. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez intéressant, c'est que quand vous êtes, par exemple, vous avez un cancer, vous êtes vulnérable. Et donc, par définition, vous allez être beaucoup plus perméable à des solutions qui vous paraissent plus simples. Mmh. Et donc, quand vous êtes dans ce moment-là, en train de faire des recherches sur Internet, comme c'est arrivé à toute personne qu'on connaît, qui a eu un cancer, et que d'un coup, vous voyez une solution, vous voyez quelqu'un qui vous dit, avec des trucs un peu frappés du coin du bon sens, « Oh, il suffit de jeûner un peu, etc. etc. » Peu à peu, vous pouvez dériver et croire qu'en réalité, il faudrait quitter vos soins. Quoi.
Puisque vous en parlez, c'est éloquent dans le cas Thierry Casasnovas, quand il laisse entendre que les cancers peuvent être soignés par les jus de fruits, surtout à enrichir ceux qui les prescrivent.
Ces vidéos sont visionnées par un public de plus en plus large, souvent séduit par l'enthousiasme des commentaires. J'ai un cancer depuis 11 ans. J'ai refusé tous les protocoles et je n'ai pas peur. Je suis en pleine forme.
Entièrement d'accord. Cela sert juste à enrichir l'industrie pharmaceutique.
J'avais un rendez-vous ces jours-ci et je l'ai annulé à force de voir toutes ces vidéos et voir la vérité sur ces fichues mammographies.
On peut retrouver ce genre de commentaires-là où vraiment, ça montre l'emprise mentale qu'il peut avoir sur les gens, ses limites de l'adoration.
Une ferveur décuplée par l'algorithme de YouTube. Désormais, Thierry Casasnovas est si puissant sur YouTube que lorsqu'un internaute tape « cancer » dans la barre de recherche, ses vidéos sont automatiquement recommandées parmi les 15 premiers liens.
Parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de cette explication, Léa. Là, c'est l'algorithme qui régit les réseaux sociaux et précisément YouTube.
Ouais. Ça, c'est la spécialité de Félix.
Ouais. Pour le faire simple, je vais vous expliquer avec Deliveroo. Vous connaissez tous cette application qui vous permet de commander à manger.
Pour qui ne connaît pas, oui, on vous livre, vous commandez une série de restaurants et on vous livre.
Voilà, l'application va vous recommander ce que vous mangez. Moi, personnellement, comme j'adore le quick, elle n'arrête pas de me proposer des aliments très gras. Donc quand je veux manger sain, je suis obligé de prendre le téléphone de mon épouse pour commander de la salade. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'algorithme va vous donner ce que vous mangez. Ouais. C'est-à-dire qu'il va toujours vous recommander exactement ce que vous attendez. Et donc, quand vous vous mettez à regarder des vidéos qui peu à peu sont conspirationnistes, au fur et à mesure, l'algorithme va continuer à vous recommander exactement la même chose. Elle pense, donc vous avez commencé à manger un peu de gras, et donc on va continuer à vous recommander du gras.
Et ce qu'on essaie de montrer dans ce documentaire et dans chacun de ces documentaires, c'est les conséquences que ça peut avoir très concrètement sur la vie des gens. Parce qu'on disait, quand on est malade, quand on a un cancer, on est perméable à toutes ces théories encore plus que les autres. Et à chaque fois, on essaie d'avoir des victimes de ces théories du complot pour montrer que ce n'est pas uniquement un grand débat journalistique. Là, on a une femme qui, pour le coup, a été atteinte de la maladie de Lyme, qui a fait médecin sur médecin pendant des années. Personne n'a réussi à la soigner, à détecter ce qu'elle avait. Et elle était, au moment où elle a été, entre guillemets, chopée, j'allais dire, par Thierry Casasnovas, elle était mûre, elle était prête. Et quand on parle d'emprise, c'est un mot qui est intéressant. Si on prend un tout petit peu plus de champ, on a vu que la semaine dernière, il y a un rapport de la Miviludes, qui est l'autorité qui lutte contre les dérives sectaires, qui a pour la première fois mis les dérives complotistes et les mouvements complotistes dans sa vigilance, ou en tout cas sa vigilance des dérives sectaires.
Il y a toutefois plusieurs comptes complotistes qui ont été fermés par YouTube. Celui de Thierry Casasnovas est encore accessible, et c'est ce que vous relevez dans le documentaire. Félix Suffert-Lopez, est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas fermé, ce site?
Alors ça, c'est... ce que je sais, c'est qu'il y a quelques mois, pendant notre enquête, Thierry Casasnovas, quand il a vu qu'il y avait beaucoup de comptes qui étaient supprimés, en quelques jours, il a supprimé 1000 vidéos. Donc ça, nous, on l'a observé. Ensuite, la raison pour laquelle YouTube n'a pas fermé le compte de Thierry Casasnovas, c'est que j'imagine qu'ils ne doivent pas avoir considéré qu'il y a assez de signalements, ou qu'ils ne doivent pas considérer que lui, il est dans une dérive. Donc c'est le positionnement des... C'est assez compliqué de comprendre pour quelle raison YouTube supprime ou ne supprime pas des comptes, ce qui rend justement... ce truc compliqué à comprendre pour le grand public.
Alors, on n'est pas ici, évidemment, en train de faire le procès de YouTube. Il y a évidemment beaucoup d'autres réseaux sociaux sur lesquels ces thèses se répandent. On en parle juste après une courte pause. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Fake News sur ordonnance, c'est un nouveau numéro de la collection documentaire La Fabrique du Mensonge. Ça passera après-demain, dimanche, à 22h50 sur France 5. On est avec Karim Rissouli qui présente l'émission et Félix Suffert-Lopez, le producteur. Nous parlions de ce film Hold Up, nous parlions des réseaux sociaux, nous parlions également de YouTube et de son algorithme. Je l'ai dit, il n'y a pas seulement YouTube dont on pourrait remettre en cause la manière de travailler. Il y a d'autres réseaux sociaux qui sont eux aussi parfois et qui agissent de manière agressive et violente, agissent malgré eux. Les réseaux sociaux sont ce qu'on en fait. C'est ce qu'a vécu l'infectiologue Karine Lacombe. Elle a été l'une des premières scientifiques à douter de l'efficacité de l'hydroxychloroquine.
L'hydroxychloroquine.
Il ne faut pas que j'oublie une syllabe. Traitement proposé par le professeur Raoult à Marseille. C'était il y a un an. On écoute Karine Lacombe.
Ça m'était intolérable en tant que scientifique d'entendre dire que l'hydroxychloroquine était le traitement miracle qui allait sauver l'humanité, alors que l'on avait aucune preuve que c'était vrai.
En quelques phrases, Karine Lacombe déclenche la machine de la désinformation. Selon les adeptes de Raoult, elle aurait forcément un but caché. Empêcher la mise sur le marché de ce médicament peu coûteux afin de privilégier les traitements soi-disant préparés en secret par l'industrie pharmaceutique.
La communauté va se mettre en ordre de marche pour commenter, partager, voire même insulter nommément les personnalités qui peuvent, de près ou de loin, douter de l'efficacité de l'hydroxychloroquine.
Karine Lacombe va être harcelée sur les réseaux sociaux, sur sa boîte mail aussi, des menaces de mort, les attaques en meute. C'est ça en partie la machine de la désinformation ?
Oui, en tout cas, c'est la conséquence de la machine de la désinformation. Karine Lacombe, c'est éclairant, c'est quand même une grande professionnelle. On parlait tout à l'heure du fait qu'on ne supporte pas de ne pas savoir, on ne supporte plus de ne pas savoir. Là, on est au début de la pandémie, on est dans le premier confinement et il y a effectivement ce qui se passe à Marseille. Le professeur Raoult, qui est une sommité en la matière et qui dit « moi, j'ai le remède miracle ». Donc forcément, on a tous envie d'y croire. En tout cas, on est nombreux à avoir envie d'y croire. Elle dit « on n'en sait rien ». Et à partir du moment où elle commence à dire ça, elle se fait menacer de mort. Elle dit même qu'elle ne veut pas rentrer chez elle dormir parce qu'elle a peur qu'ils viennent dans la nuit pour la voir. Donc ça a des conséquences extrêmement concrètes sur la vie des gens. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, il y a le présupposé qu'il y a un but caché quand quelqu'un dit quelque chose. C'est ça aussi les théories conspirationnistes. Il y a une théorie dont on parle dans ce documentaire, qui est la théorie du Great Reset. C'est passionnant parce que c'est quoi le Great Reset ? C'est la grande réinitialisation en français. Au départ, ça, c'est un livre. C'est un livre d'un homme qui a créé le Forum économique de Davos.
Ouais.
Voilà, qui est sorti
en Suisse, souvent tous les grands dirigeants et tous les grands économistes.
Qui est sorti dans l'anonymat le plus total à l'été 2020 et qui dit toutes les grandes pandémies, toutes les grandes crises, il y a un monde d'après, il y a des conséquences irréversibles. Bon voilà, a priori, rien de très sulfureux. Et bien, les conspirationnistes vont prendre ce livre et vont complètement changer la thèse et dire, en fait, c'est ce qu'on entendait dans l'extrait sur Karine Lacombe. On va dire, ce sont les grands laboratoires, les puissants de ce monde qui veulent en réalité changer la monnaie, changer le système démocratique, qui veulent profiter de cette crise pour tout remplacer, tout réinitialiser. Et on voit comme c'est très pervers parce qu'au départ, il y a une vraie information qui va être travestie et qui devient une fake news qui est extrêmement compliquée à contrer.
Mais quand vous dites « il », c'est de proche en proche ou est-ce qu'il y a des sortes d'officines de fake news ? La diffusion de fausses infos et des théories complotistes passe par ce qu'on appelle, je l'ai appris grâce à vous, les super diffuseurs. Qu'est-ce que c'est, Félix Huffert-Lopez, les super diffuseurs ?
En fait, les super diffuseurs, c'est des personnalités qui, une fois que eux comptent énormément de followers, énormément d'influence, enfin, c'est des influenceurs de fake news. Et en gros, une fois que eux ont partagé une fausse information, d'un coup, cette fausse information, cette désinformation va exploser. Et il y en a, avec la pandémie, il y en a qui sont vraiment devenus des stars. On les montre dans le documentaire, il y en a quatre qui d'un coup sont réunis, par moments font des lives sur Facebook ou sur Zoom, tous ensemble, et qui font des conférences. Et s'il y en a un d'eux qui dit, par exemple, que le masque est une manière de nous museler, et d'un coup, ça part. Et s'il y en a un d'eux qui dit qu'en réalité, les antennes 5G et le vaccin, il y a un lien parce qu'on veut nous mettre une puce 5G à l'intérieur du vaccin, c'est pareil, ça part.
Ouais. Karim Rissouli, dans l'extrait qu'on a entendu il y a quelques instants, on parlait des adeptes du professeur Raoult. À d'autres moments du doc, on entend le mot gourou. C'est une secte, le complotisme ?
Moi, je ne peux pas le définir comme une secte, mais je regarde ce qui se fait. Et on ne savait pas, évidemment, quand on a produit ce documentaire, que la Miviludes, qui est donc l'autorité qui lutte contre les dérives sectaires, s'emparerait du sujet.
Après, je fais une précision.
Félix Huffert-Lopez.
On ne met pas les adeptes de professeur Raoult sur le même plan que les conspirationnistes qui pensent
c'est
quand même deux idées différentes.
Entend quand même ce mot-là, gourou.
Oui, il y a des gens qui sont dans la défiance. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux, en fait. Il y a d'abord des gens qui sont dans la défiance.
Il y a les sceptiques.
Des gens comme les adeptes du professeur Raoult qui d'un coup vont être dans le doute et qui d'un coup vont ne pas vouloir croire à une vérité et vont être sceptiques. Et puis au bout d'un moment, il y a un point de bascule, et c'est juste après justement dans le documentaire, où d'un coup il y a des gens qui virent dans le conspirationnisme et qui pensent qu'on essaye de supprimer la race humaine avec des vaccins, enfin pour résumer.
Alors ces fausses informations et ces discours conspirationnistes, pour reciter votre mot, sont diffusés dans un espace virtuel, l'espace numérique, mais leurs conséquences sont bien réelles. Conséquences physiques, conséquences psychologiques, comme chez Constance, c'est une ancienne adepte de Thierry Casasnovas que vous avez rencontré, et aussi des conséquences politiques, comme l'explique Antoine Bristiel, il est chercheur à Sciences Po Grenoble.
La problématique principale du complotisme et la problématique principale d'un film comme Hold Up, c'est qu'effectivement, on ne peut plus s'accorder sur les faits. Disons, on ne parle plus la même langue au sein de la société, finalement. On n'est plus capable de s'accorder sur les réalités scientifiques de base. Donc forcément, ça remet en cause le pacte démocratique.
Osons les grands mots, la démocratie est en danger ?
Je le crois, oui. Je le crois et je pense qu'on n'a peut-être pas encore vu grand-chose. On va avoir dans un an une campagne présidentielle qui sera peut-être la première campagne présidentielle française impactée par les fake news et par la désinformation.
Et vous pensez qu'on ne sera pas instruit de ce qui s'est passé précédemment avec le Brexit, avec l'élection de Trump aux États-Unis?
Malheureusement, je ne crois pas. Mais ce qui vient d'être dit est fondamental, en réalité. Si on ne peut plus s'accorder sur aucune vérité, on parlait de la science tout à l'heure. Si on ne peut pas s'accorder sur des vérités, on ne peut débattre de rien. Donc vous avez votre vérité, j'ai ma vérité, Félix a sa vérité, tous ceux qui nous écoutent ont leur vérité, mais il n'y a plus de débat possible.
Bien sûr, puisque le débat il est sur les causes et non pas sur les faits, on
exactement.
Est d'accord. Félix Suffert-Lopez et Karim Rissouli, je m'adresse à vous deux, vous travaillez ensemble également pour C'est ce soir, nouvelle émission de débat sur France 5 qui a été lancée fin janvier, c'est du lundi au jeudi à 22h30. Émission attaquée et critiquée il y a 10 jours par Pascal Praud sur CNews, je le cite. Je peux vous faire, disait Pascal Praud, le programme tous les soirs d'une émission que je commence à regarder sur France 5 à 22h30, c'est de la propagande. Fin de citation, est-ce que vous avez la sensation de faire de la propagande?
Bon, d'abord merci Pascal, parce que nous on est une émission qui est en cours d'installation, donc moi je suis ravi qu'on parle de nous et qu'il parle de nous. Évidemment non, enfin on a fait Booba mercredi soir.
Ouais, j'allais vous demander d'ailleurs.
Daniel Cohen jeudi soir, qu'est-ce qu'on a? On a Guy Sorman. La semaine prochaine, l'essayiste. Enfin, vraiment, je ne crois pas. Mais moi, ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Et je l'ai plus pris comme un hommage d'être attaqué sur la propagande.
Le producteur, un mot?
Oui, non, je ne pense pas spécialement qu'on fasse une émission de propagande. C'est vrai que ça nous a donné un gros coup de projecteur. Et voilà.
Mais c'est vrai qu'on a fait un peu la propagande de la musique de Booba, ça c'est possible. Oui.
C'est possible. Merci beaucoup Karim Rissouli, merci Félix Suffert-Lopez.
Merci beaucoup,
je rappelle,
merci.
Fake News sur ordonnance, le nouveau numéro de la collection documentaire La Fabrique du Mensonge, c'est après-demain dimanche, 22h50 sur France 5. 20h50, dans un instant, on parlera des enfoirés.
Juste après, c'est politique.
Ouais, on parlera des enfoirés à l'occasion de leur grand spectacle annuel diffusé ce soir sur TF1. Nous serons avec Amel Ben, que je viens de voir passer, la productrice artistique Anne Marcassus, Culture Média, continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Amel Bent.
Bonjour.
Chanteuse devenue célèbre depuis 17 ans déjà en chantant votre philosophie. On vous entend en ce moment avec le titre un duo avec Attic et vous avez rejoint la troupe des Enfoirés. Anne Marcassus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une figure, Anne, à la fois de la télé et de la musique en France, que vous êtes la maîtresse d'œuvre de la grande soirée des Enfoirés. C'est le plus gros casting de l'année, aussi la plus grosse audience télé de l'année hors football. Vous savez combien vous avez fait l'an passé?
On a fait 9 millions et demi, je crois, à peu près.
9,47 et 41,8% du public. Parfois, il faut se mettre à deux ou trois chaînes pour faire ses scores. Et votre actualité à toutes les deux, c'est ce soir. 2021, Les Enfoirés à côté de vous. Grand concert à 21h sur TF1. Et juste après, 2021, Les Enfoirés à côté de nous, présenté par Anne-Claire Coudray. Les Enfoirés, ça existe depuis 35 ans. Et Amel Bent a 35 ans. Ça représente quoi pour vous, Les Enfoirés?
Bah, c'est le symbole d'une chaîne de solidarité unique dans le monde. Et je suis contente que ce soit chez nous.
Ouais.
Je suis contente que ce soit nous. Je suis contente et honorée qu'on m'invite à participer à cette chaîne de solidarité chaque année. J'aimerais que ça n'existe plus un jour et qu'on le fasse juste pour le plaisir. Mais bon, cette année, plus que jamais, on a besoin de nous. On est
tiens,
là.
Puisque vous parlez de plaisir, je vais le dire tout de suite. Vous ne le faites pas pour l'argent. Anne Marcassus, vous n'êtes pas payée.
Bénévole. Tout le monde est bénévole, évidemment.
Tout le monde est bénévole, voilà, c'est dit. Cette année, vous avez tourné à Lyon, à la Halle Tony Garnier. Mais évidemment, tout a changé à cause du Covid. Pas de public, vous avez dû innover. Comment vous l'avez vécu, Amel Bent?
Il y a eu deux temps pour moi, en tout cas, j'ai l'impression pour les copains aussi. À l'arrivée, on s'est tous fait tester, on a été confinés dans nos chambres d'hôtel, on a créé une vraie bulle voilà, pour éviter de contaminer tout le monde sur le tournage. Donc il y a eu au départ, oui, une sensation de « c'est pas comme d'habitude, ouais. Est-ce qu'on va réussir à
Moi je pensais à chanter, cette magie, chanter sans applaud ou sans réaction du public.
Oui, encore plus dur pour les humoristes, parce qu'encore nous on a l'habitude en studio de créer une émotion à l'intérieur de soi en se disant un jour elle traversera le disque, la télé. Mm-hmm. Les humoristes c'est compliqué, c'est vraiment de l'immédiat, de la scène, donc il a fallu aussi les aider, rire pour eux, les applaudir. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la chance d'avoir des représentants des Restos du Cœur qui viennent nous voir pendant les tournages. Et je peux vous dire que quand ils viennent, les larmes aux yeux, mais vraiment avec des larmes qui coulent sur les joues, en disant « vous savez pas ce qui est en train de se passer, c'est très grave », on a vite oublié que c'était pas comme d'habitude et on s'est dit « il va falloir qu'on serre les coudes et que ce soit mieux que d'habitude ».
Voilà. Anne Marcassus, j'ai vu des bouts de l'émission, je l'ai pas vu en entier. Comment vous en êtes sortie visuellement?
Au début, on s'est quand même pas mal posé la question. Déjà, on a baissé la scène parce qu'au départ, bon, comme ils sont sur une scène assez haute, c'est vrai que normalement, c'est parce qu'il y a du public en face. Mm-hmm. Donc, on a baissé la scène, on a mis des lumières dans la fosse aussi pour donner un peu l'illusion d'une continuité de décor. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup plus filmé les coulisses, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'apesantir sur la fin des numéros. On part tout de suite en coulisses, donc on vit le rush en fait comme un concert de l'intérieur, en voyant l'arrière du concert.
Ouais. Je souris parce que je pense à Inès Reg, elle dit « L'an dernier, je chantais, je faisais des sketchs, maintenant on me fait faire la vaisselle. » On la voit dans la tambouille, ça m'a fait marrer. Il y a 26 tableaux, il y a des sketchs et à noter l'intro du spectacle par vous, Amel Bent, et Cadmerade. Vous êtes plus ou moins déguisé en Guy Lux, Moumoute et costume blanc, et Simone Garnier en costume doré. Et là, on plonge dans les années 70.
Bonsoir à tous et bonsoir Simone.
Bonsoir Guy et bienvenue à ce nouveau numéro de...
Non, c'est moi qui parle Simone. Je suis quand même la star de cette émission. Bienvenue donc à ce nouveau numéro de Palmarès Ring Parade des chansons secrètes du tirage du loto des succès fous de la chanson française internationale.
Oui Guy, et je rappelle aux téléspectateurs le principe. Alors il est très...
Ferme-la Simone. Je vous rappelle le principe. Il est très simple. Vous pouvez voter chez vous pour la chanson que vous préférez. Pour cela... Eh bien, c'est très simple. Vous envoyez « Chanson que je préfère » sur votre téléphone.
Pardonnez-moi, Guy, mais nous sommes dans les années 70. Il n'y a pas de SMS, donc vous ne pouvez pas envoyer quoi que ce soit sur votre téléphone.
Bien sûr que si, Simone. Vous prenez votre téléphone, vous marquez dessus la chanson que vous préférez et vous envoyez votre téléphone, paf, recalé dans une enveloppe sur la tour. Non, c'est la poste faisant foi.
On rigole tous les trois. Vous voulez dire quelque chose,
Marc Cassus ? Oui, parce que c'est un de mes numéros préférés cette année. Parce que franchement, déjà, il est très beau visuellement. Ouais. Les quatre, ils sont quatre. Il y a Patrick Fiorivita qui joue le couple de chanteurs et Amel et Cad, le couple de présentateurs. Et franchement, il est hyper réussi parce qu'il allie la comédie et le chant. C'est-à-dire que ça chante bien, ça joue bien. Donc, c'est vraiment un tableau hyper réussi.
Et il y a même, vous avez cité deux autres, et je citerai aussi Michael Youn au piano, sont les artistes présents.
Alors bon, je ne peux pas tous vous les citer.
Moi, j'en ai une grosse liste.
Voilà, il y a Michael Youn, évidemment, qui est...
Allez, je vais y aller, moi. Zazie, Cadmerade, Carla Bruni, Zaz, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Christophe Willem, Christophe Maé, Vita, comme on l'a dit, Claire Kem, Black M, Amir, Soprano, Philippe Lachaud, Michel Larocque, Jean-Louis Aubert, Florent Pagny, Laurie Pester, Patrick Bruel, Michael Youn, on l'a dit, il y est deux fois, ça fait trois fois, Nicolas Canteloup, Inès Reg, Harry Habitant, Isabelle Nanty, Claudio Capello, Pierre Malman, Marie-Agnès Gilot, Danseuse Étoile, et dans un genre totalement différent, Sébastien Chabal.
Ah oui, mais Sébastien Chabal, il fait partie de la troupe. Ouais. Ah oui. C'est un de nos chouchous et qui est le. On est ravis que Sébastien, que des sportifs comme ça de haut niveau nous ont rejoints et font partie maintenant intégrante de la troupe.
Il y a des petits nouveaux aussi.
Oui, il y a Vianney, Kev Adams et il y a Listaglioni qui fait un petit passage.
Et la toute jeune Rebecca.
Et Rebecca.
Dites qui est Rebecca.
C'est une gagnante de The Voice Kids.
Ben voilà.
Et qui chante divinement bien et qui nous a honoré de sa fraîcheur, de sa jeunesse, de son engouement, l'engouement qu'on a quand on participe pour la première fois aux Enfoirés.
Et puis le message était de dire qu'aujourd'hui, que ce soit les petits, les grands, on est tous ensemble et tous ensemble pour donner le plus beau des spectacles pour les Restos du Cœur.
Il y a un final assez fort parce que c'est elle qui démarre Rebecca, la reprise de la chanson de Becco et maintenant avec une petite centaine de personnes au tambour. Ça, c'est l'intro. Parce que comme j'ai vu les choses dans un ordre différent, je ne sais pas ce qui est au début, au milieu, à la fin.
En même temps, il y a Marc Cassus qui sait. On va découvrir ce soir le tracklist du spectacle.
Il y a le double intro dont fait partie et maintenant, justement.
Ouais. Vous avez dit, vous ne vouliez pas que ce soit ostentatoire, qu'il y ait un décalage entre ce que vivent les Français et les Enfoirés sur scène. Trop de paillettes.
Voilà. En fait, la première image, ils sont en jean, donc ils ne sont pas du tout, comme d'habitude, très costumés, etc. Et c'est important pour l'image du début, qui est cette espèce de sobriété. Après, évidemment...
Il y a du costume.
Après, c'est le show.
Il y a des costumes, c'est le show, voilà. On fait le show. Mais la première image, c'était... On voulait une image de rassemble. Comment je peux dire
Ça va bien avec le titre du spectacle.
La première chanson, le dire, c'est « S'il suffisait d'aimer » de Céline Dion, qui est un peu sur le fait que quand les gens s'aiment, finalement, on avance tous ensemble.
Et je dois le dire, pour les fans de Cadmerade, il y a de la perruque. Culture Média continue. On est avec Anne Marcassus et Amel Bent. À tout de suite.
Moi, je file la rancard à ceux qui n'ont plus rien.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Amel Bent, chanteuse, Anne-Marc Cassius, productrice, directrice artistique des Enfoirés, le grand concert des Enfoirés, c'est ce soir, ça s'appelle Les Enfoirés à côté de vous. Et il y aura ensuite Les Enfoirés à côté de nous, c'est l'after présenté par Anne-Claire Coudray. Alors, il y a plein de choses dans l'émission évidemment, il y a des humoristes, je ne l'ai pas vu, mais il y a une parodie de l'émission La France, un incroyable talent. Ils vont être contents sur M6, vous les avez prévenus ou pas?
Ouais, il y a beaucoup de parodies, il y a Affaire conclue aussi, il y a Voice, il y a...
Ah, vous moquez aussi d'émissions
de
TF1.
Massinger aussi. Si, justement, on se moque de toutes les émissions, de tout le PAF.
Et comme chaque année, le lendemain de la diffusion du show, donc demain, double CD et un DVD issu du concert qui sera mis en vente partout. Vente qui permet à l'association de distribuer 17 repas. Le prix, je vais vous le donner, 19,99, 24,99. C'est 17 repas pour un CD que vous arrivez à retirer.
Très important, le but de cette émission, le but des artistes, le but de la mobilisation de tout le monde, c'est vraiment aller acheter ce CD, ce DVD, c'est ce qu'il y a de plus important parce que ça va directement dans la poche des Restos du Cœur pour les bénéficiaires et ça c'est le message essentiel.
Et pour le faire vendre dans le show, il y a également un téléachat qui est baptisé Enfoiré Achat, c'est une fausse pub américaine jouée par Philippe Lachaud et Tarek Boudali, mais le plus intéressant quand même c'est le doublage.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons ce superbe produit, le DVD des Enfoirés 2021.
Cet objet est absolument révolutionnaire et va pouvoir vous changer la vie. Découvrez pourquoi.
Il vous permettra par exemple de jouer tout l'été entre amis ou en famille.
De vous refaire une beauté en toutes circonstances.
De ramasse-miettes ou de caler la table sur laquelle vous dînez.
Évidemment, le son saturé, c'est vintage évidemment, c'est fait comme ça, c'est la parodie. C'est d'autant plus important, on parlait des ventes de ce CD, que le concert s'est tenu sans public. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les 70 000 personnes qui étaient attendues n'étaient pas là, ce qui fait un manque à gagner de 4,2 millions d'euros qui correspondent au ticket d'entrée. Il y a la diffusion du concert, il y a les ventes de CD, de DVD, les choses ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, demain, dimanche, tout le week-end, c'est la grande collecte nationale. Le week-end resto, vous pouvez en dire un mot, Anne-Marc Cassius?
Écoutez, alors ça, je ne suis pas la spécialiste. Il y a une collecte, évidemment, une collecte des restos partout en France. Et puis aussi, il y a tout un merchandising. On peut acheter des t-shirts aussi, on peut acheter des tas de choses.
Des mugs, c'est très facile à voir. Il faut aller sur le site qui s'appelle
lesrestosducoeur.org. Sur le site, vous avez les choses que les gens peuvent donner. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout envoyer. Il y a des choses dont ils ne se servent pas. Donc il y a vraiment des listes de denrées. La façon dont il faut les donner, c'est des conserves, c'est ça. Il y a des couches, des produits de première nécessité. Mais il y a des listes sur le site des Restos du Cœur. Donc on peut aller le voir. Sur leur compte Instagram, sur leurs réseaux sociaux, ils en parlent aussi. Il y a beaucoup de ces listes.
L'an passé, 7400 tonnes, puisque vous en parlez, Amel Bend, 7400 tonnes de denrées ont été collectées, l'équivalent de plus de 7 millions de repas. Je voudrais dire un mot de la parité, parce qu'Anne-Marc Cassius, évidemment, vous ne manquez pas de candidats pour venir au Resto du Cœur, et vous dites avoir un problème de parité. Oui, c'est pas facile de trouver des filles.
Mais c'est vrai, on a un problème avec les filles.
Expliquez.
Ben, je sais pas pourquoi. On a un problème depuis des années avec les filles parce qu'il y a moins d'artistes peut-être féminines qui...
Qu'est-ce que vous appelez un problème? Elles ne veulent pas venir. Vous les invitez, elles ne veulent pas venir.
Ben, c'est... Mais il y a moins de... Moi, c'est un constat que je fais depuis un certain nombre d'années. C'est que les femmes, elles ont moins de... Elles durent moins dans ce métier, bizarrement. J'ai l'impression qu'il y a plus d'hommes qui ont survécu au temps dans leur carrière artistique, que les femmes.
Oui, je pense qu'il y a moins de chanteuses aussi.
Il y avait beaucoup de chanteuses, moi, quand je suis arrivée, en tout cas, dans le début des années 2000. Et puis, bizarrement, il y a un peu des fois comme... Bah là, je ne vais pas faire ma... Mais j'ai l'impression que pour les femmes, il y a un peu une date de péremption. J'ai l'impression qu'on les laisse moins vieillir dans ce métier.
En l'occurrence, ce n'est pas le cas.
Et la preuve que non, justement.
Non, ce n'est pas le cas pour les restos, mais c'est vrai qu'on a ce problème-là. Souvent, les garçons jouent plus peut-être le jeu, je ne sais pas.
Ah oui.
Et dans The Voice, vous êtes toute seule. Vous êtes la seule fille. Les trois autres coachs sont des garçons. Florent Pagny, Vianney, Marc Lavoine. Et évidemment, Nico Saliagas à la présentation. Amel Bent, vous êtes toute seule. La seule fille.
Oui, je suis la seule femme dans les fauteuils. Mais de toute façon, depuis la création de l'émission, il y a eu quatre femmes dans ces fauteuils.
Seulement.
Donc, je crois que c'est représentatif de la place qu'on laisse aussi aux femmes dans... dans le milieu de la musique.
Je voudrais qu'on entende un son très rapidement, Anne-Marc Cassius, au sein de DMLS TV. Vous êtes la productrice de Duo Mystère qui a démarré le 26 février la semaine dernière. Le principe, c'est des artistes qui chantent en duo avec un ou une autre artiste, mais ils ne savent pas avec qui ils chantent. D'abord, le son est trafiqué pour eux. Il y a un miroir sans teint qui sépare les deux côtés de la scène. Et puis, le miroir se soulève. Évidemment, le public et surtout l'artiste découvre avec qui il chante. Amel Ben, vous avez participé à l'émission. Je n'ai pas le droit de le dire, mais je savais que c'était vous. Et quand le miroir s'est soulevé, vous avez découvert que vous chantiez avec...
ma petite sœur.
On va entendre ce moment.
Tout comme des étoiles. De son
et même là vous êtes ému, vous êtes ému, vous n'arriviez plus à chanter ni elle ni vous.
Ah oui, c'est... moi j'ai dit à Anne, mais vraiment Anne c'est une des femmes que j'aime le plus dans mon métier depuis, ça fait 17 ans que je suis là. Ouais. Elle fait tout le temps des émissions incroyables où on vibre et je lui ai dit ça fait peut-être plus de 10, enfin ça fait 10 ans que j'ai pas vécu un moment comme ça à la télé. Avec autant d'émotions, de musique, c'était en live, il y avait un quatuor de cordes, enfin, franchement c'est une émission merveilleuse.
Quel compliment, merci beaucoup Amel Bent. Anne-Marc Cassius, je vous félicite parce qu'en plus ça a marché, donc il y en aura d'autres, 4,25 millions de personnes et sur les cibles énormes sur les femmes et sur les jeunes. Merci
d'avoir
été avec nous.
Mathieu était venu vous en parler.
Mathieu Vern, exactement, mais quand il est venu nous en parler, on n'avait pas le droit de dire que c'était Amel Bent et on ne connaissait pas les audiences.
Exactement.
Merci beaucoup, je rappelle Les Enfoirés à côté de vous, grand concert ce soir à 21h sur TF1. Juste après, Les Enfoirés à côté de nous, présenté par Anne-Claire Coudray. Et demain, il faut acheter le DVD ou le CD.
Obligé.
Merci beaucoup. Culture Média qui continue. Il y aura le rappel des titres. Il y aura Eva Rock pour son zapping du lendemain. Il y aura Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Et puis notre invitée, la productrice et écrivaine Michèle Halberstadt pour Né quelque part, son nouvel ouvrage. Et dans Les Indispensables, une carte Pokémon qui bat des records et des plats paysans qui promettent d'être réconfortants. Quel programme, à tout de suite.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.